Nous accueillons ce soir Nathalie qui nous appelle de Lyon, qui est enseignante en maternelle depuis 25 ans. Et on va vous écouter, Nathalie, parce que je crois savoir que depuis peu, vous êtes quelque peu désemparée dans l'exercice de vos fonctions. Racontez-moi, Nathalie, que se passe-t-il ?
J'appelle parce que je voulais témoigner de ce qui se passe dans ma classe cette année et qui est malheureusement le reflet de ce qui se passe dans beaucoup de classes en France. Donc, je suis dans une école, dans une école depuis 4 ans, une école assez mixte, assez métissée, socialement parlant. Et cette année, nous avons accueilli un enfant qui a un comportement particulièrement préoccupant. Il vient d'une autre école. Il a 5 ans, enfin comme tous les élèves de la classe. Et dès les premiers jours, il a manifesté une grande violence à l'égard de ses camarades, même à l'égard des adultes qui travaillent dans la classe. Donc ça peut être des gestes déplacés envers la TSEM, envers moi-même et envers aussi une personne qui s'appelle une AESH, qui est une accompagnante pour un autre enfant handicapé de la classe. Donc, ces gestes sont quotidiens, c'est un enfant qui fait des crises. Quand je dis les gestes, c'est des griffures, des morsures. Il tape des pieds, il peut renverser les meubles. À côté de ça, il a un comportement évidemment très agité, à pousser des cris, à ne pas tenir en place. Il est capable de travailler par moments, mais bon, vous imaginez bien que vu le comportement que je vous décris, c'est vraiment compliqué pour lui de se concentrer. Il est vraisemblablement pas là pour ça pour le moment. Et ce qui nous a tout de suite alerté, c'est qu'on est en grande section. Donc on a affaire à des enfants, et lui c'est le cas, qui a déjà été scolarisé 2 ans et qui manifeste plutôt un comportement d'un enfant qui arriverait en milieu scolaire en petite section. Il aurait 3 ans, je dis pas qu'on s'inquiéterait pas, mais on pourrait dire que c'est peut-être lié à son âge.
Oui.
Là, on est plutôt parti sur quelque chose de pathologique. Et pour compliquer l'affaire, les parents sont dans un déni total.
Alors, quand vous dites les parents sont dans un déni total, ils sont tout de même au courant du comportement de cet enfant, qui est sans doute un enfant porteur de troubles ou de certains handicaps, non ?
Alors, moi, à mon niveau, je ne peux pas poser de diagnostic médical.
Mmh.
Simplement, avec l'expérience, avec l'observation des uns des autres, parce que je ne suis pas seule dans la classe, c'est l'avantage aussi maternel, ça paraît évident. Ça paraît évident à tout le monde. Je suis entourée d'une super équipe, autant au niveau pédagogique que médico-social. On a quand même un médecin scolaire, une psychologue scolaire, on a aussi une assistante sociale, bon, qui ne sont pas tout le temps dans l'école, mais vers qui on peut se référer dans ce genre de situation. J'ai tiré évidemment la sonnette d'alarme tout de suite. Et tout le monde œuvre pour faire avancer les choses. Mais dans un premier temps, on s'adresse à la famille. Et cette famille, avec ma directrice, j'ai jamais voulu recevoir ses parents seuls parce que j'ai quand même tout de suite compris qu'on avait affaire à un profil d'enfant particulier avec des parents particuliers aussi. Donc je ne les ai jamais reçus seuls, toujours en compagnie de ma directrice dans un premier temps.
Oui.
Et on a eu des scènes un peu rocambolesques. Bon, après, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un enfant soit totalement différent à la maison, à l'école. Là, on est vraiment quand même sur une échelle très démesurée. Donc, alerté par cette non-réaction des parents, et on a fait très tôt dans l'année quand même, en septembre, c'est assez rare, ce qu'on appelle une IP. Une information préoccupante, c'est un document qui part aux services sociaux. C'est pas seulement les enseignants qui peuvent faire ce genre de démarche, hein, n'importe qui, des voisins qui entendent ou qui suspectent peut-être qu'un enfant serait maltraité, etc., peuvent faire une information préoccupante. Donc là, on l'a fait au nom de l'école. Il y a eu une réaction. Enfin, nous, après, c'est un peu aussi secret. On n'est pas censé savoir, mais enfin, on a eu quand même quelques informations. Il y a eu une enquête à domicile qui n'a pas forcément décelé quoi que ce soit. Ceci dit, il y a un suivi. La famille a quand même un suivi. Donc, je pense que c'est une famille qui est dans une grande précarité financière et la situation n'est peut-être pas très, très stable. pas des parents qui travaillent a priori. Je suis pas sûre qu'ils aient des papiers. Enfin, bon, voilà, ça après, ça me regarde pas, mais ça peut expliquer aussi la difficulté de cette famille. Simplement, c'est pas une famille qui est dans une demande d'aide. Donc après, notre action, elle est assez limitée.
Cet enfant n'est pas, ou cette famille n'est pas suivie par des éducateurs.
Alors jusqu'à présent, moi je ne peux pas avoir ce genre d'information, mais en tout cas j'ai pas l'impression, puisque cette IP a déclenché le suivi de la famille à domicile. Donc je pense que jusqu'à présent, ils étaient peut-être connus des services sociaux pour des aides financières, des choses comme ça, mais je suis pas sûre pour l'éducatif. En
d'accord.
Tout cas.
Aujourd'hui, quelle est la position de votre direction? Est-ce qu'elle vous suit? Elle est solidaire?
Alors, il faut savoir que dans une école, le directeur n'est pas le supérieur hiérarchique de l'enseignant.
Donc, c'est vous qui êtes en charge de déclencher toute
Exactement.
Action.
Exactement. Alors après, évidemment, c'est l'éducation nationale, c'est très hiérarchisé. Donc, moi, j'en réfère toujours à ma directrice quand je fais quelque chose qui me suit. Ça, je suis, comme je le disais, super entourée. Tout le monde m'a fait confiance dès le début et je pense que c'est pour ça que j'ai tenu. Parce que sinon, je vous assure que pour la première fois de ma carrière, j'ai vraiment pensé à m'arrêter et en réfléchissant, en pesant le pour et le contre, je me suis dit que ça ferait avancer. Rien du tout, en fait, que j'étais la seule à pouvoir faire bouger les choses, parce qu'en plus, quand on s'arrête, on n'est pas sûr d'être remplacé. Donc ça veut dire aussi qu'après, les enfants sont répartis, et un enfant comme celui-ci, c'est pas cadeau, voilà, je le dis clairement. Mais mon supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur. Et l'inspecteur a alerté tout de suite, mais il n'a pas réagi tout de suite. Pour dire clairement les choses, j'ai envoyé un mail la première quinzaine de septembre. J'ai eu une réponse et un entretien fin septembre. Un entretien qui, sur le coup, n'a pas donné grand-chose. C'était juste une écoute.
Oui.
Ça m'a permis de parler. Et à l'issue de cet entretien, on m'a proposé éventuellement un suivi psychologique si j'en avais besoin. Je le dis de manière un petit peu ironique, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Hein. Donc bon. Aujourd'hui, les choses ont quand même avancé, parce qu'avec toute l'équipe éducative donc, que j'évoquais tout à l'heure, le médecin scolaire, la psychologue, l'assistante sociale, ma directrice, on a pu faire ce qu'on appelle une équipe éducative en présence du papa pour évoquer tous ces problèmes. C'est assez récent, c'était après que je vous écrive. Ça s'est passé le 22 novembre, donc il y a une grosse semaine.
Oui.
Et lors de cette réunion, le papa, donc il était seul, il n'y avait pas la maman, n'a pas été dans le déni. Il a simplement dit que c'était des choses qu'il n'observait pas, qu'il n'avait jamais observées chez son enfant, donc ni à la maison.
C'est quand même incroyable.
Ça paraît assez incroyable parce que bon, il lève quand même la main sur les adultes et pas petitement. Hein. Enfin, moi, ça m'impressionne. C'est vraiment des crises. On dirait que l'enfant est possédé. Il a un regard terrible. Enfin,
ah oui, carrément.
Ah mais non, mais c'est effrayant. Effrayant, vraiment. Les enfants, je ne sais pas jusqu'à quel point sont traumatisés, mais si je fais cette démarche, c'est à la fois pour les enfants, à la fois pour les collègues qui subissent ça, parce que la plupart du temps, ça reste dans le silence. Et comme je vous le disais tout à l'heure, soit les enseignants s'arrêtent parce qu'ils craquent, parce que c'est terrible.
Ouais,
c'est une
ouais.
situation où on est sur les nerfs 24 sur 24. Mmh. Soit on essaye de faire avancer les choses, mais il faut avouer qu'on n'est pas beaucoup aidé.
Oui, j'ai du mal à croire que le papa n'ait rien remarqué. C'est impossible, impossible, à moins qu'il ne
ça
soit
me,
pas chez lui.
Moi, ça me paraît difficile. Après, il est certain que s'ils vivent en vase clos, enfin moi, j'ai pas tellement d'informations sur son quotidien en dehors de l'école à ce petit garçon. Mais bon, j'imagine qu'ils sont pas très socialisés. Enfin, donc après, c'est peut-être effectivement difficile de remarquer comment ça se passe avec les autres si on ne vit pas avec les autres.
Mmh.
Ça, c'est une éventualité.
Comment réagissent les parents des autres élèves? Parce que vous évoquez quand même une situation à risque, Nathalie.
Tout à fait, tout à fait. Moi, quand j'ai alerté dès le début de l'année, c'est en partie aussi pour les autres enfants. Parce que, bah certes, on est là pour s'occuper d'enfants en difficulté, mais on a quand même aussi toute une classe qui souffre. Et là, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, qui souffre physiquement, parce que là, il y a des traces, il y a des coups, il y a des insultes aussi, il peut être vulgaire parfois. Et puis, il y a l'impact psychologique quand on voit un enfant qui lève la main sur les adultes, qui sont là quand même pour vous protéger. L'école, c'est un lieu où on est normalement en sécurité. C'est pas évident. Donc, au début, j'ai pas voulu du tout me servir de, c'est-à-dire la première période avant les vacances d'automne, j'ai pas voulu du tout me servir du témoignage des parents. J'avais peu de retours parce qu'on essaye aussi quand même toujours d'apaiser les choses, sinon ça peut vite partir en pugilat. Hein. Mais je savais que c'était ma dernière cartouche pour faire réagir. Donc je l'ai utilisée à la rentrée des vacances d'automne parce que je voyais plus d'autres moyens. Donc les parents, pour répondre à votre question, ils sont plutôt très corrects. Ils ont écouté, les enfants nommaient souvent cet enfant quand ils racontaient leur journée de classe au retour à la maison. Mais ils essayaient de minimiser, ils disaient « bon, écoute, il est nouveau, peut-être que tu exagères un peu, ou j'en parlerai à la maîtresse ». Bon, effectivement, on en a parlé, j'ai été quand même assez claire, notamment avec les parents représentants de parents, pour leur exposer la situation, et je leur ai dit dans un premier temps, essayons de... Voilà, laissez-moi faire, j'ai des choses à faire pour être dans les clous, mais si vraiment ça ne suffit pas, là, vous pourrez lancer des courriers, vous pourrez témoigner. Donc maintenant, ils font des photos, ils nous écrivent, ils nous envoient des mails à la directrice et à moi, quasiment tous les jours. Et je vous assure que c'est assez désolant de voir ça. Donc on a des photos de morsures, de griffures, d'étranglements, enfin tout ce que vous voulez. Et moi je suis là, donc on pourrait me dire mais que faites-vous ? Enfin vous n'arrivez pas à protéger les enfants. Mais la seule chose en fait c'est qu'il faut être tout le temps avec lui et si possible isolé du groupe. Donc c'est impossible. Quand on a une classe, c'est impossible. Donc les parents sont vraiment bienveillants. Comprennent la situation, n'en veulent absolument pas, n'en veulent à personne, hein, ils comprennent que ça va loin, n'ont pas encore essayé de parler aux parents de cet enfant, parce que les parents de cet enfant sont très peu présents à l'école et assez fuyants, ils connaissent personne et comme je vous le disais, ils ne socialisent pas beaucoup, donc c'est difficile, hein. Mais quand même depuis l'équipe éducative du 22 novembre, donc on était tous réunis, il a été décidé pour la protection de la classe que l'enfant ne vienne plus que le matin. C'est un enfant qui mangeait à la cantine aussi. Alors le temps de cantine était abominable parce que là, c'est pareil, il n'y avait pas de personnel pour lui. Et puis le personnel sur le temps de midi est souvent incomplet, il y a souvent des absents, donc ça devenait une catastrophe. Donc il était clair qu'il ne pourrait plus manger à la cantine, d'autant que les parents ne travaillent pas et pouvaient venir le chercher. Et en plus, on a décidé que jusqu'aux vacances là, de Noël, il ne viendrait pas non plus l'après-midi, avec pour obligation pour les parents de commencer à fouiller un peu côté médical, à prendre des rendez-vous. Donc ça, je ne saurais que plus tard si ça a été fait ou pas. Mmh. On a prévu une autre réunion en janvier pour voir ce qui a été fait ou pas. Donc la situation est quand même un peu apaisée, forcément, puisqu'on l'a que le matin avec nous.
Oui.
Et depuis cette dizaine de jours, on est extrêmement vigilante, notamment avec mon ADSEM et la personne qui accompagne un autre enfant handicapé de la classe, pour éviter tout conflit avec les enfants. Mais on a quand même des crises, on a quand même des comportements anormaux.
C'est bien évidemment, c'est compliqué. Vous l'avez quand même le matin, donc ça continue à être compliqué, cette situation.
Ah oui. Alors, ce que je fais, je l'ai fait à titre personnel quasiment depuis les premiers jours. Je fais un journal de bord tous les jours pour consigner assez succinctement, mais quand même pour qu'il y ait une trace, parce qu'après on finit par oublier ou on ne sait plus replacer les éléments dans l'ordre. Et puis bon, là, comme on a quand même besoin d'avoir des choses très concrètes, très précises à dire lors des réunions, moi ça m'aide aussi. Donc je consigne tout ce qui se passe. Donc vous imaginez bien que je ne peux pas faire pour chacun de mes élèves. Hein. Ouais. Ça me prend un temps considérable. Et depuis cette réunion aussi du 22 novembre, on a décidé que chaque semaine, pour que les parents ne nous reprochent pas de ne pas avoir informé, de ne pas être au courant, etc., j'envoie le petit bilan de la semaine. Voilà, ce que j'écris quotidiennement, en fait, est envoyé aux parents en fin de semaine. Donc je ne sais pas quel impact ça aura aussi, mais je pense que ça en aura un de lire voilà, que votre enfant tous les jours a tapé, a mordu, a griffé. Enfin, c'est terrible hein, d'en venir là. Je préfère agir autrement. Je n'agis jamais comme ça. C'est la première fois moi que ça m'arrive. Hein. Je suis plutôt normalement de nature assez conciliante à réussir à communiquer. Là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal.
Oui,
J'ai
bah,
même
évidemment.
plus envie du tout hein,
Ouais.
de communiquer avec cette famille parce qu'en plus, bon, il y a eu des intimidations, enfin, des comportements très, très étranges hein,
C'est très
aussi.
compliqué parce que vous évoquez là une
Oui.
situation extrême. On parle
Oui,
souvent
oui.
sur cette antenne du manque de formation des profs, des maîtres et des maîtresses pour. En ce qui concerne les enfants différents. Mais on parle ici d'enfants qui sont porteurs de troubles de la concentration, de dys, d'autisme léger. Bon, ça, c'est un réel problème en France. Là, vous évoquez tout de même le cas d'un enfant, bon, soit différent, mais qui est porteur d'un handicap sérieux, voire. Qui souffre de troubles psychiques et qui met en danger bah, les autres enfants. Déjà,
Tout à
parce
fait.
que les petits bonhommes, les petites bonnes femmes de 5 ans ne doivent pas comprendre ce qui leur arrive quand il y a des coups de distribuer. C'est là où cette situation problématique, très problématique. Et puis pour vous, ça doit être très angoissant.
Hyper stressant. Hyper stressant. Encore une fois, j'ai la chance aussi que mon ATSEM bah, tienne le coup. Tout le monde tient le coup. Donc je pense quand même qu'on a été assez solidaires voilà, pour se serrer les coudes. Et bon, ça porte ses fruits si on veut, puisque ça avance quand même. Mais alors, je vous dis pas à quel prix. Parce que c'est vraiment. Enfin, toute l'énergie, par exemple, de la première période a été concentrée sur cet enfant. Au détriment, je l'ai expliqué aux parents, hein, de certaines activités. Voilà, on n'est plus. Là, ce n'est pas du tout de la pédagogie. Ça ne relève pas du
Alors,
tout de notre travail.
justement, comme ça ne relève pas de la pédagogie, comme cela ressemble à une crise où l'enfant est en danger et éventuellement il met les autres en danger, pourquoi, ça c'est un auditeur ou une auditrice qui n'a pas signé son SMS mais qui vous soumet la solution d'appeler les pompiers pour que l'enfant bah, soit hospitalisé ou que les parents acceptent. Une confrontation à un pédopsychiatre, voire une éducatrice spécialisée, parce qu'une situation comme ça va pouvoir déclencher ensuite le fait que vous appeliez les pompiers ou le SAMU, parce qu'il n'est pas dans son état normal quand tu fais ça.
Alors, on ne peut pas, enfin, dans ce genre de situation, moi, si vous voulez, il n'y a pas de cet enfant, il n'a pas de handicap reconnu, puisqu'il n'est pas diagnostiqué, puisque la famille dit que tout va bien.
Oui, mais bon.
En plus, c'est une famille très, moi je peux le dire aussi, hein, je l'avais écrit dans mon mail, une famille très croyante, très
D'accord,
pratiquante, et
d'accord.
qui argue que comme Dieu ne leur dit pas que l'enfant va mal, ben, il va bien. Donc si vous voulez, pour discuter, c'est assez
Enfin là,
compliqué également.
on est un peu
Voilà.
dans du délire là quand même.
Ben,
hein?
écoutez, je vous laisse
Ah ben
juger.
vous pouvez me laisser. Enfin,
Je vous laisse juger,
quand on
mais
commence à dire
oui.
que Dieu n'a pas signalé qu'il y avait un problème,
Alors, si
c'est
vous voulez,
que.
pour l'école publique aussi, c'est ça, c'est une autre problématique, hein, mais
Ouais. Oui,
c'est très
je me doute.
complexe.
Oui,
Mais
ouais.
on ne peut pas, enfin, la personne qu'on appelle en priorité, et nous l'avons déjà fait, c'est les parents. Quand vraiment il a fait des crises, et c'était arrivé la semaine de la rentrée, on s'est dit, mais que se passe-t-il, hein? Donc, on a appelé, évidemment, les parents pour qu'ils viennent le chercher, hein.
Bon, à partir du moment
Et
où
ça,
vous avez des
c'est.
parents qui invoquent Dieu pour la santé de leur fils, enfin la santé mentale de leur fils, je me demande si les parents vont bien aussi. Parce que quelque part, il y a tout de
On est
même un
d'accord.
souci. Même si on sait qu'aujourd'hui, l'école publique affronte tout un tas de problèmes liés justement à la représentation religieuse assez complexe, hein, on va dire. Là, vous êtes quand même dans
Oui,
un cas
c'est un cas
qui.
très complexe.
Ouais.
Et l'autre point que j'aimerais aussi rajouter, c'est que cet enfant n'est pas le seul enfant à besoin particulier, on dit maintenant. Je vous ai dit qu'on avait donc pour la classe une accompagnante d'un enfant autiste, lourdement autiste.
Oui.
Et on avait aussi, mais cet enfant est parti, un enfant à trouble du comportement qui était également accompagné. Et ce que je vous décris là comme profil de classe n'est pas du tout exceptionnel. L'école en France, maintenant, voilà, ressemble à ça. Je vais être assez dure hein, quand je dis ressemble à ça, mais c'est vraiment le ressenti de beaucoup de mes collègues et c'est aussi pour elles que je témoigne, enfin pour elles, parce que c'est très féminin comme profession, mais c'est vraiment à vous dégoûter parfois parce que vous ne faites pas votre métier. Alors bien sûr, hein, on vous dit que les enfants sont accompagnés,
oui.
Que l'école inclusive, c'est formidable, mais on n'a absolument pas les moyens d'accompagner tous les enfants dans de bonnes conditions. Parce qu'un enfant qui a des besoins particuliers, s'il est déjà le seul dans une classe, ça va aller, on va pouvoir aménager. Mais quand il y en a 3, 4, je ne sais combien dans d'autres classes, comment voulez-vous qu'on fonctionne ? Là, il faut aller dans des classes qui s'appellent des classes Ulysse, où les enseignants sont formés pour ça et où les effectifs sont beaucoup plus réduits.
Oui,
où il y a 12 élèves maximum, pas 25-30 ouais. comme dans nos classes.
Qui sont des classes dédiées à ces enfants qui sont différents. Et vous n'en avez
donc,
pas.
Enfin, j'évoque plusieurs problématiques, hein, mais parce que tout est lié et parce que beaucoup vivent ça.
Oui, mais il n'y a pas dans les petites sections comme ça, les enfants de 5 ans, il n'y a pas d'Ulysse.
Ouais. Non, les Ulysse, c'est à partir du CP.
Ah, à partir du CP.
D'accord. Dans certaines écoles, pas dans toutes les écoles.
D'accord.
Mais là, la situation est telle que quand on parle entre nous, dans les écoles, on se dit qu'il nous faudrait des classes un peu comme celle-ci dans toutes les écoles pour que ces enfants qui peuvent pas en fait supporter un rythme de classe normal, c'est trop pour eux et ça on le comprend. Mais nous, au quotidien, on fait quoi ?
Vous êtes livré à vous-même, voilà.
Oui.
Bah ouais.
On peut le dire clairement. Et puis alors, au niveau de la formation sur ces sujets-là, c'est peau de chagrin, hein, pour pas dire inexistant.
C'est fou, ça.
Donc voilà, le constat. Alors oui, j'aime mon métier, hein, attention. Sinon, je pense que je serais déjà partie depuis bien longtemps. Mais ça peut expliquer aussi les départs massifs que connaît l'éducation nationale.
Enfin,
pour moi, c'est évident. Hein. C'est évident qu'on dégoûtera beaucoup de personnes comme ça.
Mais comme je le disais, c'est un métier qui devient compliqué. En tout cas, merci de nous avoir alerté sur cette situation, Nathalie. Ne manquez pas de nous tenir au courant de l'évolution de la situation. Vous connaissez le chemin désormais. On vous souhaite bon courage, en tout cas.
Merci beaucoup et merci de m'avoir laissé.
Je vous en prie. Passez une bonne soirée. Au revoir.
Merci. Au revoir.